Vous écoutez du Trizac. Cube Radio.
Hier, on a appris l'histoire de cette jeune femme, Stéphanie Spénard, qui a mangé une volée de la part de son ancien conjoint Guy Benoit, puis en plus de se ramasser à l'hôpital, elle apprend que l'éducatrice en milieu familial de son fils a mis fin à son contrat de garde pour des raisons de sécurité, parce qu'on a peur de ce type-là, le Guy Benoit. Alors, il y a ça, puis il y a aussi le fait que le gouvernement, on va en parler plus tard, a décidé d'approuver ce bracelet anti-rapprochement là, pour éviter que les conjoints violents viennent écœurer les femmes qu'ils ont menacées. On a avec nous Chantal Arsenault, qui est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Arsenault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrulac.
D'abord, le cas de Stéphanie Spénard, là, c'est vraiment troublant. On comprend les inquiétudes d'éducatrice en milieu familial, là, parce qu'elle a peur que le type débarque, mais ça fait que Mme Spénard est doublement victime.
Ben, tout à fait. C'est souvent ça, hein, dans la violence conjugale. Il y a des impacts qu'on ne mesure pas beaucoup. Puis quand on a des femmes qui osent venir témoigner, que je trouve immensément courageuse, venir dire les difficultés suite à l'épisode de violence qu'elle a vécu. Moi, je trouve ça important que les gens sachent à quel point c'est compliqué pour les femmes à la suite même des événements de violence, là.
Et que la peur reste, là, la frayeur de voir le gars réapparaître. Parce que là, Guy Benoit, qui est accusé de tentative de meurtre et d'infliction de lésions corporelles, il est incarcéré, mais demain, à Joliette, il y a une comparution pour remise en liberté. Puis on s'en est parlé, vous et moi, là, il n'y aura pas d'évaluation de dangerosité s'il n'est pas d'accord de s'y soumettre.
Ouais, puis ça c'est bien dommage parce que aussi j'ai vu qu'il y a eu d'autres intervenants qui ont évalué aussi le monsieur puis ils ont pas su déceler le niveau de danger. Mais ça c'est important présentement pour avoir des mesures, puis on s'en est parlé effectivement, avoir des mesures qui sont directement en lien avec le niveau de danger qu'il représente. Si on avait ça dans notre système, peut-être que l'ensemble des partenaires, l'ensemble des personnes alentour des victimes pourraient aussi se sentir rassurés.
On a vu les images de Mme Spénard, là. Mme Arsenault, elle a mangé une maudite. Il est accusé de tentative de meurtre, ce Guy Benoit. Est-ce qu'on revient là à l'essentiel des conséquences de la violence conjugale, là? Il y a le cas comme tel, mais ce qui s'ensuit par la suite, là, c'est jamais facile pour les victimes.
Non, ce qui suit, c'est jamais facile pour les victimes. Puis il y a tout un processus là qui va être mis en place. J'étais bien contente d'entendre Madame hier dire qu'elle se sentait bien accompagnée. Je veux dire aussi à Madame ou à la dame en milieu de garde qui peuvent aussi appeler dans nos maisons d'aide et d'hébergement. On est là pour les proches, pour les gens qui sont inquiets, puis on peut accompagner dans tout le processus et aussi de regarder bien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec nos partenaires pour sécuriser tout le monde alentour d'elle et de ses enfants-là. Là, les enfants étaient quand même sur place à ce moment-là.
Oui, mais on peut quand même pas envoyer des gardes du corps, là, des gaunes, surveiller, protéger Mme Spénard, puis protéger le milieu de garde, milieu familial. Puis je veux pas m'en prendre à elle personnellement, mais il y a une femme du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Je comprends pas ce qu'elle a dit. Elle dit n'avoir jamais vu un conjoint violent s'en prendre un milieu de garde. Mais on a vu des conjoints violents s'en prendre aux enfants, par contre.
Ben oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit, ben effectivement, moi, je comprends la peur de cette femme-là en milieu de garde. Mais oui, effectivement, on peut faire des scénarios de sécurité. On le fait quotidiennement dans nos maisons et avec des milieux de garde et avec des milieux de travail parce que c'est des acteurs importants au niveau de la sécurité. Mais effectivement, là, des conjoints violents, il y a quelque chose aussi à démystifier parce que c'est pas des tueurs en série. Il y a des gens à qui ils veulent pas s'en prendre aux autres enfants en service de garde. Mais en même temps, effectivement, moi, en maison d'hébergement, on le fait régulièrement de regarder des scénarios de sécurité puis de trouver des solutions pour cette maman-là. Surtout présentement, en fait, il ne représente pas un danger, par exemple, parce que là, il est incarcéré aussi. Donc, il y a comme le sentiment d'urgence. Des fois, on est prise avec ça comme proche, ouais. comme partenaire. On est dans le sentiment d'urgence d'agir puis d'avoir peur. Puis ça, des fois, ça nous fait prendre des décisions qui sont reliées à la peur et non pas objectives dans la situation.
Mais lui, c'est ça qu'il veut, là. Il veut le contrôle sur son ex-conjointe. Il veut lui faire peur. Il veut l'empêcher de fonctionner puis de circuler sans lui en pensant qu'il va apparaître n'importe quand. Mais on dirait qu'on est impuissant devant ça.
Ben, on est impuissant. En même temps, quand on appelle en maison d'aide et d'hébergement, il y a des scénarios qu'on met en place. Il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que lui, s'il présente toujours un danger, puis vous l'avez souligné, l'évaluation de cette situation-là est importante. S'il présente toujours un danger, il devrait rester en dedans, cet homme-là, là, avec ce qu'il a fait. S'il sort, ben, qu'est-ce qu'on met en place pour la sécurité? C'est une question de politique. C'est une question de, comment je pourrais dire, c'est socialement qu'il faut prendre en charge la sécurité des victimes. C'est pas à elle à fuir, effectivement, toujours. Qu'est-ce qu'on va mettre en place à l'entour d'elle?
Mais qui va décider? Qui va décider que ce Guy Benoit va rester incarcéré? Sur quels critères? Sur quelle analyse?
Ben, c'est ça qu'il faut voir dans les enquêtes caution de remise en liberté. Il y a la possibilité, hein, de faire une, comme vous le soulignez tantôt, une évaluation. Moi, je pense qu'il...
Mais il faut que je sois d'accord.
Ben, tout à fait. Mais s'il n'est pas d'accord, possiblement, je sais que dans plusieurs régions, les maisons d'hébergement sont en lien avec différents partenaires. Mmh. Fait que des fois, on peut s'entraider entre nous pour avoir une solution pour aller évaluer le danger que ça présente cette personne-là aussi.
En tout cas, c'est clair que c'est un cas où le bracelet anti-rapprochement pourrait être appliqué.
Tout à fait. Tout à fait. Puis à ce moment-là, effectivement, dans ce qui a été présenté pour les bracelets anti-rapprochement, le fait qu'il y ait des zones aussi, c'est intéressant parce que c'est plus qu'un bracelet, le GPS ou le conjoint. Nous, on avait peur que les conjoints utilisent ces bracelets-là pour faire peur aux victimes. Fait qu'ils rentrent dans la zone, ils sortent de la zone. Mais le fait qu'il y ait une pré-zone, c'est très sécurisant parce qu'il va avoir un appel avant de rentrer dans le périmètre de sécurité pour dire que tu n'en vas pas dans la bonne voie.
De pré-zone, donc, OK. Fait que, mais expliquez-nous, Alain Marceneau, là, parce que là, c'est un projet pilote, là, pour ces bracelets anti-rapprochement. Ça va être mis en place en 2022. On trouve ça lent, là, mais au moins, en tout cas, la décision est prise. Expliquez-nous comment ça va fonctionner.
Mais en fait, c'est que le contrevenant va avoir effectivement un bracelet et un autre dispositif sur lui. La victime va avoir aussi un dispositif sur elle et ils vont délimiter deux zones en fonction d'un nombre de kilomètres que le juge aura dit. Et quand, dans le fond, le conjoint violent va rentrer dans une zone dite en guillemets à risque, là, je l'appellerais comme ça, il va se faire appeler par une centrale, puis il va se faire dire, mais là, tu ne te diriges pas dans la bonne direction, rebrousse chemin ou va-t'en ailleurs. Et là, la victime, elle est toujours pas au courant de que lui s'approche d'elle. Mais à partir du moment où il va rentrer dans la zone, les polices vont aller d'abord sécuriser la victime et par la suite, ils vont aller intercepter le contrevenant. Donc, je trouve que c'est un bon modèle.
Là, il y a l'argument de faux sentiment de sécurité, Mme Marceneau. Y croyez-vous?
Oui, mais on s'en est déjà parlé, faux sentiment de sécurité. C'est sûr qu'avec la zone, avec les deux zones, nous, on trouve ça intéressant. Ce qu'on a compris aussi, c'est que c'était très dissuasif. Ceci étant dit, il ne faut pas que ça vienne remplacer non plus le fait que si un conjoint est très, très, très violent et très dangereux, il faut quand même qu'il soit incarcéré. Ça ne doit pas se substituer à l'incarcération.
Oui, ça se fait ailleurs dans le monde. Il y a des modèles où ça se fait.
Ben tout à fait. Il y a des modèles où ça se fait, puis je pense que les chercheurs, mais en fait, on a parlé déjà deux fois aux chercheurs qui ont réfléchi au modèle québécois, puis effectivement, ils se sont basés sur l'Espagne, entre autres, où il y a ce type de modèle-là. Mmh.
Est-ce que, par exemple, c'est parce que là, t'en as un qui craque, là, puis là, tout à coup, la victime doit porter un dispositif. Est-ce que les enfants aussi vont porter un dispositif? Ça arrête où?
Mais ça, je ne sais pas où ça arrêtera. Effectivement, ce sera dans les annoncer un pré-projet, donc ce sera tout ça à évaluer.
Ouais.
La victime qui va porter aussi le bracelet, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une référence systématique aux maisons d'aide et d'hébergement, parce qu'au départ, ce qu'on voit dans certains documents, c'est que ça peut éveiller un sentiment d'hypervigilance, le fait de porter ces dispositifs-là pour la victime. Donc, c'est important qu'elle soit accompagnée aussi à travers tout ce processus-là.
Dernière affaire là-dessus, Mme Arsenault, je lisais, l'étude de faisabilité a permis d'établir un certain nombre de critères pour cibler les contrevenants susceptibles d'être soumis au bracelet anti-rapprochement. Quelques 2300 dossiers annuellement pourraient y correspondre. 2300 dossiers, ça c'est à travers le Québec à chaque année?
Oui, 2300 dossiers à travers le Québec, à travers leurs critères aussi, qui sont des critères au niveau d'actes criminels ou de récidive, de bris de condition. Moi, je pense sincèrement qu'il faut aussi peut-être voir l'opportunité de regarder les autres d'autres critères, là, parce qu'on a des conjoints violents qui, à la première offense, effectivement, sont excessivement dangereux aussi. Fait que on parle de 2300 par année, mais je pense que ça pourrait aller plus que ça si on fait une bonne évaluation du niveau de danger des contrevenants.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas de Mme Spénard, là, qui attend de voir demain si Guy Benoît va être remis en liberté alors qu'elle sort de l'hôpital, là, puis que même le milieu de garde a peur de ce type?
Mais ce qu'on fait, c'est on lui suggère d'appeler dans une maison de son quartier, de son coin, pour voir, bon, un, qu'elle soit bien accompagnée, puis que tout dépendant de la conclusion de demain, qu'on puisse vraiment tisser un filet de sécurité autour d'elle, y compris avec des services de garde, ou trouver une solution pour elle au niveau d'un autre service de garde, mais certainement qu'elle reste pas toute seule à travers tout ça, puis comme partenaire, ben qu'on agisse pour sa sécurité et celle de ses enfants.
Très bien. Chantal Arsenault, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci. À la prochaine.
Merci.